Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Présence pour un nouveau numéro de Métropolez-vous. Alors que l'actualité est encore et toujours dominée par la crise sanitaire, un reconfinement et ses conséquences dans la plupart des domaines de la vie sociale et économique, on a de plus en plus l'impression que nous ne sommes pas prêts d'en sortir et d'en voir le bout. Une situation très anxiogène pour les citoyens, les entreprises, les commerces, les artisans et pour le milieu médical bien sûr, mais aussi pour les élus et les représentants de l'État vers qui beaucoup se tournent pour réclamer de l'aide. Et en effet, depuis le confinement au printemps, les collectivités ont débloqué des aides financières, des fonds de soutien, proposé des allègements de charges, différé le paiement de taxes ou de loyers pour soulager un certain nombre de secteurs de l'activité économique. Toulouse Métropole n'a pas été en reste et a joué son rôle pour soutenir les acteurs locaux. La crise se prolongeant, il y a tout de même des questions qui se posent pour la collectivité métropolitaine. Elle ne peut pas tout. Est-ce que sa santé financière pourrait être mise en danger? Doit-on s'attendre à ce que certains grands projets soient reportés? Y a-t-il aussi un risque que les impôts locaux soient revus à la hausse pour compenser les dépenses imprévues que sont les aides et fonds de soutien que je viens d'évoquer? Nous allons essayer de répondre à ces interrogations lors de ce numéro que j'ai titré « Crise sanitaire, faut-il s'inquiéter pour les finances de Toulouse Métropole ?» Et pour répondre à ces interrogations et parler de ce sujet délicat et complexe, je reçois aujourd'hui Sacha Briand, adjoint au maire de Toulouse et vice-président de Toulouse Métropole, chargé de la modernisation de la collectivité et des finances. Bonjour monsieur le vice-président, merci d'avoir répondu à mon invitation. Alors, comme ce n'est peut-être pas clair pour tous nos auditeurs et afin que l'on comprenne bien de quoi l'on parle, est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer ce que recouvre cet intitulé « Modernisation de la collectivité » et puis on rappellera dans un second temps ce qu'est le rôle de la Commission Finance de Toulouse Métropole.
Bonjour, alors ce titre qui vient s'adjoindre à la fonction plus classique des finances, c'est l'affirmation de la volonté que nous avons tant au niveau de la ville que de la métropole de pouvoir mettre en œuvre une véritable modernisation de l'action publique. L'objectif, dans un contexte où effectivement il y a une raréfaction des ressources, c'est de poursuivre les actions, mais d'essayer de le faire d'abord de façon adaptée à la situation et de le faire dans les meilleures conditions financières, c'est-à-dire en essayant d'atteindre les objectifs avec le moins de besoins financiers possible, et voire même en améliorant la réalisation des objectifs.
Alors, la commission finance, très rapidement, son rôle, expliquez-nous un peu le fonctionnement.
Toulouse Métropole, c'est 37 communes, 133 conseillers métropolitains. Et donc, lorsqu'on prend des décisions qui relèvent de l'exécutif, qu'on les soumet au vote de l'Assemblée délibérante, c'est important d'avoir une commission dans laquelle on peut expliquer, avec les élus municipaux qui ne sont pas toujours conseillers métropolitains eux-mêmes, mais qui sont en charge des questions, notamment financières, dans leur commune, et de pouvoir expliquer les mesures qui sont prises au niveau de Toulouse Métropole, de partager l'expérience et améliorer, dans la mesure du possible, les propositions que nous faisons.
Voilà, bien j'espère que c'est plus clair pour nos auditeurs. Merci de nous avoir donné toutes ces explications. Elles vont être précieuses pour la suite de notre discussion. Avant de la prolonger, nous allons nous plonger dans l'actualité métropolitaine avec Corinne Saint-Félix et son flash d'information hebdomadaire. Métropolez-vous, l'actu. Et c'est une information judiciaire qui ouvre ce flash. Toulouse Métropole et un de ses agents portent plainte pour diffamation.
Oui, en cause un article de la Dépêche du Midi dans lequel deux personnes anonymes déclarent dénoncer des pratiques scandaleuses aux pompes funèbres de Toulouse Métropole, évoquant des corps maltraités ou mutilés et des dizaines d'urnes entassées dans des locaux souillés. Face à l'émoi que ces allégations ont provoqué auprès des agents du service et chez les usagers, et après une première enquête interne, Toulouse Métropole a décidé de porter plainte pour diffamation. L'agent qui exerce le métier de thanatopracteur a également déposé plainte pour diffamation. La métropole lui a accordé la protection fonctionnelle, ce qui permet à la collectivité de lui apporter une assistance juridique et de réparer les préjudices qu'il subit.
Et si un dysfonctionnement est constaté, sachez qu'il existe des procédures pour alerter les services concernés.
Oui, il existe au sein des deux collectivités différentes procédures qui permettent de saisir le référent alerte, la direction des ressources humaines, la direction générale des services, le maire ou le président, si une hiérarchie restait silencieuse ou inactive, voire coupable, lors d'une alerte d'un agent pour des faits comme ceux relatés dans cet article. Aucune n'a été enclenchée, pas même syndicale. Il est donc établi qu'il y a là volonté de nuire aux agents, à la direction et à la collectivité et non de résoudre un problème.
Nous poursuivons avec une information dans le secteur immobilier. Les derniers chiffres de l'Union nationale des propriétaires immobiliers ont en effet été publiés.
Selon l'Union nationale des propriétaires immobiliers, l'impôt local des propriétaires a bondi en 10 ans de 31,4% en moyenne en France. Sur la même période, l'inflation et les loyers ont progressé 3 fois moins vite. À Toulouse, entre 2009 et 2019, la taxe foncière a grimpé de 32,10%. La quatrième ville de France se situe donc dans la moyenne nationale. Par exemple, pour Saint-Alban, commune de la métropole toulousaine, la hausse est de près de 60% en 10 ans. Cela reste un taux d'imposition inférieur à celui de Blagnac où la taxe foncière a le moins augmenté en 10 ans. Le taux départemental peut avoir une incidence sur ces chiffres. Pour rappel, cet impôt local profite à l'État, aux départements et aux communes ainsi qu'aux intercommunalités, le cas échéant. La hausse de la taxe foncière entre 2009 et 2019 est donc de plus de 59,38% à Saint-Alban, plus 38% à Cornebarieux et Haussonne, plus de 35% pour Fenoyer et Gratentour, 32% pour Pibrac, Launaguet et Toulouse et 31% pour Fonds-Beaux-Arts et Drémil-Lafage. L'augmentation est de moins de 31% pour les autres communes de la métropole toulousaine.
Et puis pour finir, une nouvelle importante pour tous ceux qui recherchent un emploi, Toulouse Métropole recrute.
Oui, le conseil de Toulouse Métropole a voté le recrutement de 40 demandeurs d'emploi, ce qui portera à 100 le nombre de recrutements en contrat parcours emploi compétences pour les deux collectivités, mairie de Toulouse et Toulouse Métropole. Ces recrutements doivent favoriser l'insertion et l'inclusion durable dans l'emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail. Pendant 9 à 12 mois, ces personnes développeront de nouvelles compétences et pourront s'orienter vers de nouvelles formation, elles bénéficieront d'un accompagnement individuel tout au long de leur parcours, tant par la métropole que par Pôle emploi. Cette campagne de recrutement débutera début novembre avec 20 premiers recrutements au sein de la métropole. Il a également été voté le recrutement de 4 volontaires au service civique pour participer à des actions de médiation et de sensibilisation à la propreté de l'espace public et à la bonne gestion des déchets.
Voilà, c'était le flash de Corinne Saint-Félix et Sacha Briand. Il y a plusieurs informations importantes dans cette actualité métropolitaine. Est-ce que vous souhaitez commenter l'une d'entre elles ou y apporter des précisions ?
Peut-être sur la question des pompes funèbres, parce que malheureusement, dans ma vie personnelle, j'ai eu l'occasion de fréquenter les pompes funèbres ces dernières années et les pompes funèbres de Toulouse. Et je dois dire que les accusations qui ont été portées par des personnes anonymes sont véritablement scandaleuses, parce que ceux qui ont eu l'occasion malheureusement de fréquenter les pompes funèbres de Toulouse savent que les agents sont particulièrement impliqués. Et je pense que la plainte en diffamation qui a été déposée par la ville permettra de clarifier les situations. Ensuite, une remarque sur l'étude de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Il y a une confusion quand même dans les éléments qui sont donnés et qui cumulent l'évaluation forfaitaire des bases qui est décidée chaque année par l'État et puis, dans certaines communes, parfois des évolutions de taux. L'évolution de taux n'a strictement rien à voir avec les données qui sont communiquées par cette étude. Et je voudrais rappeler simplement que dans un territoire qui était extrêmement dynamique comme le nôtre, il faut qu'on soit capable, dans un contexte de baisse des dotations de l'État, dans un contexte de raréfaction des ressources, de pouvoir apporter les services nécessaires. Et l'Union nationale des propriétaires immobiliers, qui représente les propriétaires immobiliers, devrait aussi avoir en tête une chose, c'est que ses adhérents sont particulièrement intéressés à ce qu'il y ait des routes en bon état pour favoriser la valeur locative des biens qui sont loués, qu'il y ait des écoles et des services publics, et donc on ne peut pas regarder les choses par le petit bout de la lorgnette. Et on le voit bien au travers de votre troisième information, c'est aussi le rôle essentiel sur le plan social et sur le plan de l'insertion que Toulouse Métropole assume en créant ces emplois qui doivent permettre non pas de créer des postes de fonctionnaires, mais au contraire de permettre aux gens de trouver un tremplin pour retrouver une activité professionnelle par la réinsertion professionnelle. Et ça, c'est quelque chose de très important pour nous.
Eh bien, merci d'avoir partagé avec nous ces informations complémentaires et ces réactions à l'actualité métropolitaine. Nous allons reprendre maintenant le fil de cette émission en revenant à son sujet principal. Crise sanitaire, faut-il s'inquiéter pour les finances de Toulouse Métropole ?
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
Métropolez-vous la suite avec notre invité Sacha Briand, adjoint au maire de Toulouse et vice-président de Toulouse Métropole, chargé de la modernisation de la collectivité et des finances. Nous allons essayer de le faire le plus simplement possible, mais je crois qu'il est important de détailler pour les auditeurs de cette émission les grandes lignes du budget 2020 de Toulouse Métropole. Et ce, afin de poser les bases de notre échange, quel est le montant global de ce budget et comment est-il réparti entre investissements et dépenses de fonctionnement? En résumé, de quoi est-il constitué dans les grandes masses?
Alors, le budget de Toulouse Métropole, c'est un peu compliqué, c'est beaucoup de chiffres. Grosso modo, en fonctionnement, avec les budgets annexes qui concernent l'eau, l'assainissement, les activités immobilières, etc., l'essentiel étant quand même concentré dans le budget principal, c'est grosso modo 1 milliard de dépenses et de recettes de fonctionnement, et c'est grosso modo 800 millions de dépenses d'investissement pour pouvoir assumer ces compétences. C'est, on le voit bien, un budget qui est très marqué par l'investissement quand même. Il y a beaucoup de dépenses de fonctionnement, mais qui touchent à la politique de transport, à la politique des déchets ménagers, et quand même une part très importante consacrée à l'investissement pour assurer l'aménagement et le développement, et puis aussi soutenir l'activité économique.
Alors, les gros postes de dépenses, les gros investissements et peut-être aussi les principales recettes de ce budget global de la métropole, qu'est-ce que c'est?
Alors, en recettes qui sont versées dans le budget de fonctionnement, les recettes sur... grosso modo, et je parle du budget principal, sur un peu plus de 800 millions de recettes, nous avons 550 millions de recettes fiscales et de l'ordre de 150 millions de produits qui viennent de l'État. C'est pas la dotation globale de fonctionnement qui a quasiment disparu, mais c'est la dotation de compensation, c'est-à-dire la dotation que l'État verse parce qu'il nous a transféré des compétences que nous exerçons à sa place. Et nous avons à peu près une centaine de millions de produits autres que les recettes fiscales directes, c'est notamment en grande partie la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc l'ensemble de ces éléments concourent à l'équilibre budgétaire de Toulouse Métropole. Et après, sur ce qui est l'investissement, il est financé par plusieurs recettes. D'abord, on récupère une partie de la TVA sur les investissements réalisés. On a parfois des subventions de l'État ou des autres collectivités. On a une partie de l'épargne, c'est-à-dire le résultat de la section de fonctionnement, la différence entre les dépenses et les recettes, qui nous permet d'autofinancer. Et puis, on assure l'équilibre de la section d'investissement avec l'emprunt. Et tout ça nous permet d'assurer le financement des principales compétences qui sont les nôtres. J'ai l'occasion d'évoquer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, c'est la compétence déchets ménagers, c'est 100 millions maintenant dans un budget annexe. Pour pouvoir bien identifier.
Un des 10 budgets annexes.
Et puis, il y a toutes les politiques métropolitaines qui sont importantes. La politique des transports, près de 100 millions de subventions au syndicat des transports. Le théâtre et l'orchestre du Capitole, où il y a une subvention, il y a un budget annexe, mais on verse une subvention d'équilibre de 30 millions. Les subventions aux associations dans un certain nombre de domaines qui relèvent de la compétence métropolitaine, et puis bien sûr la masse salariale, parce que nous avons la compétence propreté, par exemple, qui est extrêmement consommatrice de main-d'œuvre.
Pour les 37 communes.
Avec 37 communes, toute la compétence en matière d'environnement au sens large et d'aménagement, et l'ensemble des services de Toulouse Métropole qui participent au fonctionnement de la collectivité. Donc c'est beaucoup de compétences et des dépenses importantes que nous essayons de rationaliser chaque fois que c'est possible.
Alors justement, en parlant des dépenses, depuis 2014, est-ce qu'on a constaté de grosses économies, une baisse de certains postes de dépenses par rapport à ce qu'ils étaient il y a 6 ans?
Alors, nous avons, dès 2014, essayé de mettre en œuvre une optimisation des moyens de la collectivité. Mais je dirais que la meilleure illustration des efforts que nous avons réalisés, c'est la contractualisation avec l'État. Vous savez que cette Toulouse Métropole a été l'une des premières collectivités qui a accepté de s'inscrire dans cette logique de contractualisation. L'État nous a fixé un objectif d'augmentation des dépenses de fonctionnement limité à 1,35%, ce qui est extrêmement contraignant dans un territoire en développement démographique. Eh bien, nous avons tenu cet objectif, aussi bien en 2018, en 2019, de façon constante. Et nous avons réussi à la fois à accompagner le développement démographique et économique de notre territoire et de tenir cet objectif d'encadrement des dépenses.
Et dans le même temps, comment ont évolué les investissements dont vous parliez tout à l'heure, qui sont très importants, donc 800 millions d'euros?
Alors, les investissements, effectivement, très importants. Sur le mandat passé, nous avions en 2015 approuvé un programme pluriannuel d'investissement qui se situait autour de 1,4 milliard d'euros. À la fin du mandat, grâce aux efforts consentis, nous avons pu améliorer et nous avons atteint un volume global d'investissement de 1,8 milliard d'investissement pur. Et qui essentiellement concerne la voirie, le développement économique, l'aménagement de l'espace, et qui est là pour accompagner ce développement démographique et cet aménagement du cadre de vie des habitants de Toulouse Métropole.
Alors, on en arrive à la crise sanitaire. Comment le budget de Toulouse Métropole a-t-il évolué, s'il a évolué, depuis le début de la crise sanitaire? Est-ce qu'il a été révisé? Est-ce que certains postes ont été revus à la baisse? Parce que d'autres ont été revus à la hausse, je pense. Si des aides ont été débloquées, si des fonds de soutien ont été débloqués pour certains domaines d'activité, il y a eu une hausse. Donc, est-ce qu'on a fait des économies pour arriver à stabiliser l'ensemble?
Alors, là, habituellement, on vote le budget primitif. Et en cours d'année, parfois, on a des décisions modificatives pour ajuster.
On ajuste.
Ça a été, sur l'ensemble du mandat, la première année où nous avons une décision modificative adoptée en juillet, très importante. Très importante parce qu'elle a pris en compte toutes les mesures qui avaient été mises en œuvre pendant la crise sanitaire et le plan de soutien et puis le plan de relance. Et ça se traduit concrètement dans le budget de Toulouse Métropole par un programme d'investissement augmenté, c'est-à-dire que nous avons, dans le cadre du plan de relance de plus de 95 millions d'euros, inscrit des crédits pour pouvoir lancer très rapidement les opérations qui étaient réalisables. Parce que vous savez qu'on est dans un environnement réglementaire où dès qu'on fait des travaux, il y a des procédures d'enquête publique parfois, de marché public.
Mais ça se fait pas comme ça.
Donc ça se fait pas tout de suite. Donc il a fallu cibler les opérations qui étaient prêtes à être lancées et nous les avons immédiatement inscrites dès le mois de juillet dans le budget de Toulouse Métropole. Et puis au niveau du fonctionnement, nous avons pris un certain nombre de mesures, essentiellement non pas des dépenses, mais des pertes de recettes. Des exonérations de loyers, des exonérations de redevances et puis l'aide pour les entreprises qui sont à la cotisation minimale de la cotisation foncière des entreprises pour rendre une fraction de la CFE que nous percevons à ces entreprises les plus fragiles. L'ensemble de ces mesures, c'est le plan de relance 95 millions d'investissements et puis sur le fonctionnement, c'est pratiquement 30 millions de pertes de recettes pour accompagner et soutenir les entreprises en difficulté.
À ce qu'il peut y avoir comme conséquence ou ce qu'il y a des jeux comme conséquence à tout ça, des projets d'investissement qui ont pu être différés, reportés, voire abandonnés?
On n'est pas du tout dans cette logique-là. Pourquoi ? Parce que on a aujourd'hui une situation de crise, mais notre objectif, c'est vraiment d'accompagner la reprise, la relance. Et il faut que notre territoire puisse retrouver cette dynamique qui, historiquement, a fait la réussite de notre agglomération. Donc l'objectif, ça n'est pas de sabrer dans les dépenses d'investissement pour essayer de gérer une espèce de pénurie, mais bien au contraire de lancer. On a dans cette crise, malgré tout, une chance. C'est que, notamment sur les marchés financiers, les taux d'intérêt sont historiquement faibles et le reste aujourd'hui. Et je pense notamment à la troisième ligne de métro, qui est un programme d'investissement à long terme en termes d'amortissement, puisque c'est quelque chose qu'on ne va pas payer en une année. Hein. On va le financer essentiellement par l'emprunt et ça va être remboursé sur les 20 prochaines années. Eh bien, on a aujourd'hui, malgré tout et malgré les difficultés qu'on rencontre, une vision plutôt positive des modalités de financement avec des taux d'intérêt qui restent historiquement faibles et on vient d'ailleurs de lancer une campagne de souscription d'emprunt pour la ville, la métropole et Tisséo qui se solde par des niveaux de frais financiers tout à fait historiquement bons. Et donc notre objectif, c'est d'assurer la poursuite de nos programmes et notamment sur la troisième ligne et d'essayer de trouver les conditions de financement les plus favorables possibles.
Alors, est-ce qu'on ne peut pas craindre un accroissement de l'endettement qui pourrait peser de plus en plus sur les finances de la métropole dans les années ou la décennie à venir ?
Nous avons un pilotage de la capacité d'endettement qui est extrêmement pointu. Sur Toulouse Métropole, il y a eu un débat avant les élections, mais c'était avant les élections, aujourd'hui on l'entend moins, sur le fait que la métropole s'était endettée sur le mandat passé. Oui, bien sûr, et ça avait été affiché dès le départ pour une raison simple, c'est que la métropole est une construction relativement récente, que ses compétences sont essentiellement des compétences d'investissement, et que donc la ressource de l'emprunt est naturelle. Et nous n'avions pas atteint le niveau de croisière. Ce niveau de croisière, il a été fixé dès le début du mandat, autour de 1 milliard de dettes, parce que 1 milliard de dettes, ça représente une annuité que nous étions en capacité de rembourser. Demain, la dette de la métropole va progresser en fonction de sa capacité de remboursement. Et donc, on ne sera pas sur une croissance aussi importante que sur le précédent mandat, mais on sera sur une croissance qui tiendra compte de l'évolution des ressources de la métropole et de sa capacité de remboursement. Sur Tisséo, le projet de troisième ligne, c'est un projet d'investissement avec des amortissements techniques, hein, un tunnel. Quand vous faites un tunnel, ça coûte très cher pour le métro, mais vous l'amortissez sur 40 ou 50 ans parce que c'est la durée de vie technique. Ce n'est pas le cas de tous les équipements. Un bus, vous n'allez pas le financer sur 40 ans. Et donc sur Tisséo, le programme de troisième ligne va amener une augmentation du stock de dette. Mais je rappelle qu'on a actuellement un stock de 1,4 milliard sur Tisséo qui va, lui, s'éteindre. Et donc c'est un stock de renouvellement en partie. Et puis on a, je viens de l'évoquer, une politique aujourd'hui de taux d'intérêt extrêmement faible. Il faut savoir que la dette ancienne de Tisséo avait un taux moyen de plus de 4%. Que là, nous sommes sur des stratégies et des orientations beaucoup plus faibles, et que quand on remplace de la dette à 4% par de la dette à 1% et même moins aujourd'hui, eh bien, ça peut paraître étonnant, mais on économise de l'argent sur les frais financiers et c'est quelque chose de tout à fait considérable. Et c'est cette situation actuelle de taux bas qui est un élément essentiel de la capacité d'investissement.
Ça c'était effectivement une précision très importante. Il faut que les citoyens aient ça à l'esprit. Et en parlant des citoyens, je pense qu'il y en a beaucoup qui s'inquiètent aussi d'une hausse possible des impôts locaux pour trouver de nouvelles recettes et compenser les dépenses imprévues liées aux conséquences de la crise. Est-ce que c'est une hypothèse que vous envisagez? Vous excluez quoi qu'il arrive.
Avant les élections, ce qui n'avait pas été fait au mandat passé par l'ancienne majorité avant 2014, avant les élections 2020, nous avons tenu sur la ville, sur la métropole et sur le syndicat des transports de communiquer à l'ensemble des élus les études prospectives financières qui montraient qu'on avait la capacité à assumer le programme politique et le programme d'investissement sans augmenter la fiscalité. Et donc, nous ne sommes pas allés à l'élection comme ça avait été le cas partiellement en 2014, sans avoir les éléments de compréhension de la situation. Nous avons laissé, au terme du mandat passé, une situation financière saine qui ne nécessite pas d'augmentation fiscale. La crise sanitaire est passée par là. Pour autant, la crise sanitaire, elle n'a pas, c'est en tout cas notre espoir, vocation à être une crise structurelle. C'est une crise conjoncturelle et il faut espérer que notre pays et notre agglomération en sortent dans les prochains mois. Alors bien sûr, ça va durer et ça aura duré plusieurs mois, 6 mois, 1 an. Peut-être que les effets économiques vont se prolonger sur 1 an et demi. Mais nous sommes sur une stratégie de financement sur 10 ans. Et donc, même si la crise va avoir un impact négatif, ça a été le cas sur la ville de Toulouse cette année, puisque nous allons terminer l'exercice avec une épargne nette quasi nulle, et en tout cas très faible. Ça sera le cas l'année prochaine sur Toulouse Métropole, parce que les ressources fiscales de Toulouse Métropole sont en effet décalées, c'est-à-dire que c'est N plus 1 l'effet de la crise. Nous aurons des pertes, probablement de l'ordre de plusieurs dizaines de millions d'euros, mais pour autant, ça n'est pas structurel, c'est conjoncturel, et donc on peut atténuer les effets de cette crise par le lissage pluriannuel.
Alors, les incertitudes concernant la crise sanitaire, l'éventualité d'un reconfinement qui pourrait se prolonger, voire se répéter, on n'en sait rien. Est-ce que ça oblige d'ores et déjà à anticiper des évolutions, une révision du budget de Toulouse Métropole, ou en tout cas à envisager de nouveau de débloquer des aides, des fonds de soutien à certains secteurs, je pense notamment à la culture, mais pas seulement.
Alors, on a été extrêmement accompagnant dans la mesure de nos possibilités, parce qu'il faut quand même mettre les choses à leur juste valeur. Le budget des collectivités locales que sont la ville de Toulouse ou Toulouse Métropole n'est pas en capacité à assumer les pertes de chiffre d'affaires dans l'ensemble du secteur privé. Le poids de Toulouse Métropole à l'intérieur du volume du PIB de la métropole est relativement limité. Nous avons et nous ferons en sorte d'accompagner les secteurs qui sont en crise. Ce que je souhaite, moi, c'est que si reconfinement, il y a l'activité économique puisse se poursuivre, et je pense que c'est quelque chose qui correspond aussi aux objectifs du gouvernement, parce que de toute manière, notre pays ne serait pas en situation d'assumer un arrêt d'activité renouvelé. Pour ce qui est du budget de Toulouse Métropole, précisément, la crise ne permet pas de réduire les dépenses. Mais la crise doit être l'occasion pour nous de revisiter et de moderniser l'action publique, de revisiter nos processus, de revisiter notre manière d'agir pour être plus efficace et à moindre coût.
Il faudra être inventif, sans doute. Est-ce qu'il y a des concertations entre la métropole et les autres collectivités, la région, le département, l'État bien sûr, avec la CCI aussi, pour que les aides accordées, les fonds de soutien soient répartis de la façon la plus juste et efficace possible en fonction des marges de manœuvre de chacune des collectivités que je viens de citer?
Alors il ne faut pas oublier un élément fondamental en France, qui est issu de la Révolution française, c'est que l'impôt est une compétence du législateur. Ça, c'est un héritage extrêmement fort de la Révolution. Le résultat concret, c'est que nous ne pouvons pas nous décider de mesures fiscales autonomes. Nous ne pouvons qu'appliquer ce que le législateur nous autorise à appliquer. Alors, par exemple, le fonds d'aide pour les entreprises sur la CFE, nous l'avons mis en place en concertation avec la région, qui est la collectivité pilote en matière d'aide économique et qui est la seule à pouvoir faire des aides économiques aux entreprises. Pour le reste, nous ne pouvons agir que sur des mesures d'exonération des terrasses pour les commerçants qui ont été fermés, des modérations de loyers, comme nous l'avons fait sur notre parc immobilier, mais nous avons une marge de manœuvre relativement limitée.
Alors, compte tenu de la situation financière actuelle de la métropole et de l'incertitude concernant l'évolution de la crise sanitaire, quel scénario dans les prochains mois, reconfinement durable, voire reconfinement successif, pourrait vraiment plonger la métropole dans de grosses difficultés au point de remettre en question sa politique d'investissement et d'imposer une baisse drastique de ses dépenses pour les années à venir? Est-ce que ce scénario, selon vous, existe ou est-ce qu'a priori il est très improbable?
Encore une fois, la crise sanitaire, si elle a un impact économique pendant 6 mois, 9 mois, 1 an, 18 mois, c'est quelque chose que nous arriverons à gérer dans la durée. Ça provoque un pic de difficultés, mais c'est quelque chose qui peut être
surmonté,
lissé.
Oui.
Si la crise sanitaire devient une pandémie planétaire pluriannuelle et que pendant les 10 prochaines années, nous sommes soumis à des phases de reconfinement et d'arrêt d'activité, si l'industrie aéronautique ne repart pas, nous aurons des difficultés structurelles. Mais en l'état, les éléments dont on dispose, c'est qu'on va avoir une année, deux années difficiles, mais que ça n'est pas à long terme quelque chose qui structurellement impactera nos équilibres. Et on peut espérer que si le rebond vient, comme les études économiques le montrent, peut-être dès 2021 et en tout cas dès 2022, notre région qui déjà par le passé faisait mieux que les autres régions de France, eh bien bénéficie du rebond de manière encore plus améliorée. De la même manière qu'aujourd'hui, dans le ralentissement de l'économie, on observe que notre région est plus pénalisée que le reste de la France, parce que précisément, c'est dans notre région qu'il y avait une réelle dynamique économique.
Eh bien, nous allons conclure cette émission là-dessus. Merci infiniment d'y avoir participé, Sacha Briand, et d'y avoir apporté toutes vos précieuses lumières, tous ces éclaircissements sur l'état des finances de Toulouse Métropole, sur leur évolution possible en fonction des conséquences de la crise sanitaire et des choix de gestion qu'elle impose ou pourra imposer dans les mois à venir. Rien n'est écrit, évidemment. La situation peut certes encore se dégrader, comme elle peut s'arranger plus vite que prévu. Quoi qu'il en soit, soyons solidaires, restons vigilants parce que nous savons tous que les enjeux sont considérables, aussi bien sur le plan sanitaire qu'économique. Si vous voulez consulter le détail du budget de Toulouse Métropole, notez que le document est disponible à l'adresse www.toulouse-métropole.fr à la catégorie Métropole, rubrique Budget. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine à la même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, métropolez-vous bien.
Métropole et vous. Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.